Voilà. Donc merci Vanessa, merci à Julie et Élise qui sont à la manœuvre dans l'organisation de ce cycle de conférences débats auquel vous avez m'avez invité, et je me réjouissais de pouvoir débattre avec M. Goffin, mais je vais, en utilisant le langage judiciaire, prendre mes avantages, puisqu'il fait défaut, et ce qui nous permettra tout à l'heure peut-être de le confronter à une des nouvelles règles, tant de la procédure civile que de la procédure pénale, qui vise à imposer au justiciable qui a fait défaut de justifier l'excuse légitime pour pouvoir avoir la parole en cas d'opposition. Donc, on pourra lui demander quelles sont ses justifications. En tout cas, il y en a une qui semble être de mise, c'est le travail colossal qui le retient. Travail colossal qui a occupé la commission de justice de la Chambre, c'est le moins qu'on puisse dire, ces deux dernières années, sous l'impulsion d'un ministre qui nourrit de grandes ambitions pour la justice. Le travail réalisé, je viens de le dire, est colossal, il faut bien le reconnaître, mais je ne partagerai pas, et j'anticipe, là c'était en principe une réplique, je ne partage évidemment pas l'enthousiasme et l'optimisme que devrait nous traduire M. Goffin tout à l'heure. Je vous présenterai, moi, c'est mon rôle dans cet exercice, une vision plus critique de la justice qui se dessine pour demain, si ce n'est de la justice déjà aujourd'hui. Alors j'ai été présenté, et je le suis dans les différents supports de communication, de promotion de ces débats, comme avocat en charge de nombreux recours contre les lois pot-pourries. Alors, effectivement, je suis intervenu dans les recours contre les lois pot-pourries 1 et 2, pas contre les autres, 3, 4 et 5, mais j'interviens et je suis intervenu dans d'autres affaires concernant l'accès à la justice ou concernant les réformes de droit pénal ou de procédure pénale qui, en fait forment un tout par rapport à ces réformes qui ne se limitent pas aux lois pot-pourries 1 à 5. Je n'évoquerai toutefois pas ces recours, si ce n'est peut-être de manière très marginale à l'occasion d'un temps de discussion. Juste une information, les recours pot-pourris 1 et 2 viennent d'être plaidés il y a 2-3 semaines, 3 semaines pour l'un, 2 semaines pour l'autre, et elles sont actuellement délibérées devant la Cour constitutionnelle, donc les arrêts devraient intervenir dans les semaines, petits mois à venir. Ce que je voudrais toutefois souligner à propos de ces recours, en introduction, c'est le côté fédérateur de ces réformes. C'est en effet, je pense, un phénomène assez nouveau que de rallier les ordres professionnels, des avocats, des magistrats, qui ne sont pas coutumiers de la contestation, si ce n'est peut-être lorsque les règles touchent à l'aménagement de leur pension, le milieu associatif. Et aucun de ces intervenants devant la Cour constitutionnelle ne défendant un intérêt personnel ou corporatiste, mais l'intérêt du justiciable et, au travers lui, la défense de l'état de droit. C'est d'autant plus exceptionnel que tous ces acteurs n'ont pas forcément la même vision de la justice et qu'ils se mobilisent, non pas contre une disposition ou l'autre, mais contre un ensemble de mesures qui visent à réformer en profondeur la justice. Alors, je commencerai par une rapide mise en contexte avant de livrer ma manière d'appréhender les réformes dont toutes, évidemment, ne sont pas à bannir. Premier élément contextuel, c'est celui d'une insuffisance de moyens dénoncée depuis de nombreuses années. Pour donner une idée du niveau d'investissement de l'État en matière de justice, on peut se référer à une étude concernant les chiffres portant sur l'année 2012, étude du Conseil de l'Europe, où il s'avère que la Belgique se plaçait, et rien avant 2015 ne l'a fait monter dans ce classement, se plaçait 41e, donc la Belgique se trouve tout en dessous de ce tableau, 41e sur les 43 États du Conseil de l'Europe qui ont fait l'objet de cette étude, concernant la part de dépenses publiques affectées à la justice, avec une part de 0,7% des dépenses publiques octroyées ou affectées à la justice. On est bien en dessous de la moyenne au niveau de ces 43 États qui est de 2,2%. Les Pays-Bas affectant 2% de leurs dépenses publiques à la justice, la France 1,9%, l'Allemagne et l'Italie 1,5%. Ceci explique peut-être déjà, 2012, un déficit de cadres, tant pour les magistrats que pour le personnel des greffes et des parquets, le manque d'investissement personnel des greffes et des parquets ayant d'ailleurs fait l'objet en 2015 d'un rapport très critique de la Cour des comptes. Alors que l'État avait déjà été condamné pour le manque de moyens affectés à l'appareil judiciaire et critiqué par la Cour des comptes, qui plus est au mépris de l'obligation positive de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du droit au procès équitable dans des délais raisonnables, le gouvernement a décidé, lors de la confection du budget 2015, de réduire encore le budget de la justice de plus de 124 millions d'euros. En projetant de réduire de 10% sur 4 ans les crédits en personnel, soit une économie de 53 millions, soit une échéance de 4 exercices, et de 20% les crédits de fonctionnement, donc une économie de 73 millions d'euros sur les crédits de fonctionnement. Voilà le contexte. Alors, à partir de ce contexte, comme le reconnaît le ministre de la Justice dans son plan qui va être mis en œuvre au travers des différentes lois pourries notamment, ces défis budgétaires, il les qualifie de défis, imposent de repenser fondamentalement les processus de travail au sein de la justice. Pour ces raisons budgétaires donc, la justice doit se concentrer sur ses tâches essentielles, dit le ministre, comme si elle s'était égarée à résoudre jusque-là des conflits futiles ou inutiles, et produire moins d'unités. Concrètement, dit le ministre dans son plan, il faut mettre l'accent sur une réduction du nombre de jugements. Pour atteindre cet objectif de réduction d'unités, le ministre a fait preuve d'une extraordinaire imagination pour repenser les services publics de la justice, pour faire moins, mais sous couvert d'un discours selon lequel ce serait nécessairement mieux. Sans quoi, sans ce discours tentant à dire que ce sera nécessairement mieux, la régression aurait été trop flagrante et aurait exposé le législateur à une sanction évidente d'une cour ou d'une autre. Une affirmation récurrent depuis les premières lois que je situe à partir de 2004-2005 avec la réforme de l'indemnité de procédure, une affirmation récurrente sert la justification des réformes. Cette affirmation, elle est invariablement que la justice est surconsommée et qu'il est impératif, sauf à risquer l'étouffement, de prendre des mesures visant à lui donner de l'air en la recentrant sur ses fondamentaux. Pour servir le propos, dans le plan justice, le ministre se réfère à l'augmentation du nombre d'affaires devant les justices de paix, où il se réfère également à un nombre considérable, c'est une affirmation non étayée, considérable d'appels qui ne seraient que dilatoires. Je reviendrai sur les statistiques dans un instant, non sans avoir au préalable relevé un paradoxe lorsque l'on se réfère à l'explosion qui est réelle du contentieux devant les justices de paix. La loi Popourri 5 du 6 juillet 2017 augmente à 5 ans le délai de prescription pour les créances de consommation de gaz, d'eau, d'électricité, d'internet et de téléphonie qui constituent, avec les factures d'hôpitaux, l'essentiel des affaires introduites devant les justices de paix. Alors, pour atteindre cet objectif de diminuer l'input et donc la production pour faire des économies, le législateur va adopter 4 types de mesures. Il y a d'abord celles qui, formellement en tout cas, visent à augmenter les recettes, mais dont on assume, peu ou prou, un bénéfice secondaire par l'effet dissuasif de l'aspect économique d'une procédure. Augmentation des coûts de l'accès à la justice, qui va en principe générer des rentrées, mais qui va aussi aboutir à une exclusion de certaines catégories de plus en plus larges de justiciables, et donc, indirectement, produire l'effet voulu de limiter l'input et donc les unités à produire. Deuxième type de mesure, ce sont les mesures qui visent à réduire la voilure du service public et donc à diminuer le service offert à l'usager. Troisième catégorie de mesures qui se retrouvent dans les différentes réformes de la justice, ce sont celles qui visent à faire supporter par un tiers une charge qui revenait à l'État. Par exemple, en favorisant le recours au mode alternatif de règlement des litiges, ou, de manière beaucoup plus questionnable encore, de faire porter, j'y reviendrai tout à l'heure et sans doute dans le débat avec M. Goffin s'il arrive, sur toutes les mesures qui visent à transférer sur les ordres professionnels, que ce soit les huissiers, les notaires ou les avocats, des charges en matière d'informatisation de la justice. Enfin, quatrième type ou catégorie de mesures, ce sont celles qui visent à responsabiliser le consommateur, puisqu'on le qualifie comme tel et nous sommes bien à la Solvay Business School pour adopter cette optique, ou le dispensateur du service par des modifications procédurales, comme par exemple, pour ce qui concerne le justiciable, la réforme des conditions de l'opposition, le défaut devant être justifié par une cause légitime à présent. L'essentiel des mesures qui participent à la réforme de la justice peuvent être classées dans ces quatre catégories. Pour ce qui concerne l'augmentation des recettes, quatre types de mesures rapidement. La fin de l'exonération de la TVA sur les prestations des huissiers de justice depuis juillet 2013, la fin de l'exonération de la TVA sur les prestations d'avocats depuis le 1er janvier 2014, une augmentation substantielle des droits de greffe qui a été en vigueur du 1er juin 2015 jusqu'au 31 août 2017, de parcours suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle 13/2007, et plus récemment, réforme de l'aide juridique, avec l'instauration d'un ticket modérateur pour les bénéficiaires et une nouvelle cotisation générale à charge de tout demandeur devant les cours et tribunaux, une cotisation de 20 euros pour alimenter le fonds de financement. Alors, il est difficile de dire si ces mesures, et particulièrement à partir de l'augmentation des droits de greffe, ont eu un impact ou non sur le nombre de procédures introduites devant les cours et tribunaux. Je me suis amusé à procéder à un recensement des statistiques qui sont publiées année par année par le SPF Justice pour essayer d'étayer mon propos, ou en tout cas interroger une affirmation de base qui est « la justice est surconsommée ». Alors, premier tableau, dont il est difficile d'apporter une analyse, c'est l'évolution du nombre d'affaires nouvelles, de nouvelles affaires par année, introduites devant les cours d'appel. Alors, petit correctif par rapport au tableau, c'est de 2001 à 2016, et pas de 2000 à 2016, où, de manière flagrante, on ne voit pas une diminution sur les 3 dernières années, 2014, entrée en vigueur de la TVA sur les prestations d'avocats, 2015-2016, droit de greffe majoré, même s'il y a une diminution quand même sensible entre 2015 et 2016, mais rien ne permet d'affirmer que ce soit lié à une augmentation du coût. D'autres paramètres étant intervenus sur cette année-là, dont la réforme de Potpourri 1, qui supprime le caractère suspensif de l'appel, sauf si le juge de première instance octroie ce caractère suspensif dans la décision qu'il rend, ce qui est quand même fortement exceptionnel. Donc les deux facteurs peuvent peut-être expliquer cette diminution. J'y reviendrai tout à l'heure, je ne tirerai aucune conclusion de ce tableau. Deuxième tableau, l'évolution du nombre d'affaires introduites en justice de paix, qui sert effectivement dans les travaux préparatoires et surtout dans le plan justice lui-même de justification à l'absolue nécessité, à l'impératif de prendre des mesures visant à sauvegarder le service public de la justice. Alors, sur les années 2014, 2015, 2016, je ne peux pas tirer de conclusion, même si les différentiels sont sensibles. Par contre, ce qui saute aux yeux, c'est une explosion du contentieux devant les justices de paix depuis 2008. Alors, de manière peut-être très, très, très raccourcie, on pourrait imaginer un lien entre la crise économique, qui se produit à partir de cette année-là, et une explosion de défauts de paiement de petites factures qui constituent l'essentiel du rôle, du nombre d'affaires devant les justices de paix. Alors, là, ça va être un peu plus intéressant que les deux tableaux suivants. Ce tableau-ci, affaires civiles introduites devant les tribunaux de première instance par requête. Donc, essentiellement, des requêtes d'appel contre les jugements des juges de paix ou les tribunaux de police civils, où on ne voit pas de manière flagrante pas de conclusion à tirer sur les évolutions 2014, 2015, 2016. Nous y voici. Nouvelles affaires civiles et familiales, donc en tenant compte de la modification et de l'instauration du tribunal des familles ou de la famille, introduites de 2001 à 2016 au rôle général, donc par citation, contentieux ordinaire, compétence générale du tribunal de première instance. Et en dessous, affaires civiles introduites devant le tribunal de première instance en référé. Nous avons une diminution de plus de 50% des affaires nouvelles entre 2014 et 2015. Nous avons en référé une diminution de 70% des affaires. Alors, je n'ai aucune explication à donner. La seule différence, à mon sens, pas de différence procédurale à la suite de Popourri 1 qui pourrait justifier ou expliquer ces chiffres, qui sont quand même extraordinaires, si ce n'est l'augmentation des droits de greffe, mais est-ce que ça justifie ce différentiel, moins 50%, moins 70%, affaires civiles ordinaires et référées? Je pense que ce tableau devrait être une invitation à opérer une véritable étude, une véritable recherche qui permettrait, au-delà des lieux communs que je peux exprimer, d'expliquer, de justifier, d'interroger ces données qui, elles, sont parfaitement objectives. Alors, peut-être un élément qui est aussi tout à fait objectif, c'est les prédictions sur l'avenir. Je vous ai montré en premier tableau l'évolution du nombre de nouvelles affaires devant les cours d'appel, qui ne relève aucun différentiel important ou sensible ou qui devrait être souligné. Mais à partir du moment où on a une diminution à ce point importante des affaires nouvelles devant les tribunaux de première instance, il s'agit des affaires sur citation et donc pas d'appel, donc des affaires qui, a priori, sont susceptibles d'appel, et bien on va reporter, évidemment, ces chiffres, et à une échéance d'un ou deux ans, le temps que ces nouvelles affaires soient instruites et vidées par les tribunaux de première instance, et bien on aura, évidemment, le même report, proportionnellement, devant les cours d'appel, qui vont, évidemment, perdre leur input, et donc voir elles-mêmes le nombre de nouvelles affaires fortement affectées dans les années qui viennent, ce qui fait d'ailleurs paniquer certains au sein des ordres des barreaux, en disant de quoi va-t-on vivre puisque les cours et tribunaux sont en train d'être vidés. Alors, j'ai placé ces graphiques dans la partie de mon exposé concernant les mesures d'ordre financier. C'est peut-être un parti pris. Vous apprécierez, je ne prétends pas faire une démonstration scientifiquement étayée sur ce propos. J'aurais pu placer ces tableaux à d'autres stades de l'exposé, mais je pensais que de les avoir à l'esprit déjà maintenant permet d'éclairer aussi la suite et l'importance de la pertinence, la nécessité, l'impératif qui est exposé par le législateur de devoir réformer la justice pour lui donner de l'air. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il se passe quelque chose, en tout cas devant les tribunaux de première instance, qui mérite une réflexion plus aboutie. Deuxième catégorie de mesures à côté des mesures d'ordre financier, ce sont celles qui visent à diminuer le coût du service en réduisant la voilure du service public. Potpourri 1, généralisation du juge unique. Le législateur estimant, je cite, que la valeur ajoutée d'une collégialité obligatoire ne fait aujourd'hui plus le poids face au lourd fardeau que cela entraîne pour les juridictions. Et partant également du postulat que les juges uniques peuvent en faire plus séparément que ce que peut traiter une chambre collégiale. Autre exemple, suppression des sièges d'abord de manière temporaire dans Potpourri 1 de certaines justices de paix, puis Potpourri 4, centralisation des grèves de plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement, et ensuite réforme des cantons et arrondissements judiciaires de manière à diminuer le nombre de justices de paix et en tout cas certainement le nombre de greffes, donc le nombre de greffiers, le nombre de bâtiments et donc le coût du service. Autre élément que l'on peut faire rentrer dans cette diminution des prestations de services publics, et M. Goffin s'en expliquera tout à l'heure, le recouvrement extrajudiciaire des créances gémies commerciales entre crochets, parce que dans l'état actuel, le système est réservé aux créances commerciales, mais il est à craindre ou à espérer, selon les points de vue, que le régime se généralise. Recouvrement extrajudiciaire des créances incontestées, avec un mécanisme d'inversion du contentieux pour libérer les juges et les greffes du traitement juridictionnel des dettes commerciales, aujourd'hui non contestées. Autre élément qui vise à diminuer les prestations et donc le coût, c'est la réforme de la compétence d'avis du ministère public. Alors, vous savez, le ministère public est amené dans certains types d'affaires que l'on appelle les affaires communicables à remettre un avis dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la société. Il a été jugé, notamment, qu'il était utile et nécessaire, voire absolument nécessaire, de réformer ce système, notamment pour mettre fin aux pertes de temps liées à la présence obligatoire d'un membre du parquet à l'audience où sont traitées ces affaires communicables. Alors, ce volet de Potpourri 1 était voulu pour recentrer les parquets décimés, je cite les commentateurs, sur leurs fondamentaux. Recentrer les membres du parquet décimés sur les fondamentaux de la justice pénale. 2 ans à peu près après l'entrée en vigueur de cette mesure, est-elle efficace ? Voici les chiffres des nouvelles affaires correctionnelles et d'appels de police entre 2010 et 2016. Ces chiffres, à nouveau, sont interpellants. On constate une diminution de 8500 affaires, donc 8500 nouvelles affaires en moins devant les tribunaux de première instance, chambres correctionnelles à l'échelle du Royaume, entre 2015 et 2016. Si l'on se réfère à l'année 2014, ce n'est pas moins de 11700 affaires de moins, nouvelles, poursuites, 11700 poursuites de moins sur 3 ans. Alors, il y a 2 possibilités. Je vais à nouveau peut-être ne pas être très scientifique, mais soumettre 2 possibilités. La première, elle réjouira M. Goffin quand je lui ferai l'écho de ce tableau, c'est que le gouvernement a été efficace, la sécurité publique a été renforcée. C'est une bonne nouvelle. Moins de délinquance, moins de poursuites, c'est évident. La deuxième possibilité, ou deuxième peut-être interrogation, c'est qu'il ne suffit pas de soustraire le parquet à ses missions d'intérêt général dans le cadre du contentieux civil pour remplir les cadres. Ceci pose à nouveau la question de la pertinence et de la proportionnalité d'une mesure qui n'est pas sans effet sur un certain modèle de justice, qu'on peut bien entendu questionner, comme les différents objets des différentes réformes Potpourri ou autres, mais avec d'autres arguments que la nécessité ou l'impératif de pallier un manque de moyens. Au niveau correctionnel, les principales modifications apportées par Potpourri 2 que l'on peut intégrer dans cette catégorie diminution des prestations, tout d'abord le nouveau régime de correctionnalisation des crimes qui vise, si ce n'est à supprimer la cour d'assises, ce qui n'aurait pu être fait sans modifier la Constitution, en tout cas à réduire fortement les hypothèses dans lesquelles elle serait convoquée. On peut aussi classer la suppression de la possibilité de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre des mises en accusation ou la suppression du contrôle mensuel par la Chambre du Conseil de la régularité de la détention préventive et la suppression du pourvoi en cassation. Alors, M. Goffin, dans son intervention, a l'intention de développer ce point. Peut-être que pour la facilité, j'avais quelques développements à faire, mais je me permettrai de le faire dans le débat s'il y a lieu. Alors, troisième catégorie, et je n'envisagerai pas celle de la responsabilisation des acteurs. Troisième catégorie, dans la note très succincte que M. Goffin m'a communiquée pour préparer ma réponse à son intervention, il nous explique, il nous expliquera dans quelques minutes, un pan important de la réforme qui vise à adopter une meilleure communication au sein de l'appareil judiciaire j'interroge ça d'une autre façon, en externalisant en réalité les coûts qui sont à charge du département, en principe du département justice, par une forme de privatisation. L'idée est assez simple, à échéance brève, les choses sont déjà claires au niveau des justices de paix, il faut fermer les greffes, ne plus engager, réduire le personnel, et effet d'aubaine, on pense que l'informatisation de la justice va permettre de pouvoir faire face à ces difficultés immanquables qui vont se produire s'il n'y a plus de greffe, s'il n'y a plus de personnel. C'est la panacée. Sauf que depuis, j'étais en fonction au cabinet de la ministre de la Justice à l'époque, depuis près de 15 ans maintenant, les différents ministres de la Justice n'ont pas su mettre en œuvre le plan Phoenix d'abord et les plans successifs d'informatisation de la justice par la suite. Donc l'idée de génie qui a convaincu, c'était de transférer le coût et la gestion du dossier par des tiers, par les huissiers de justice, par les avocats, par les notaires, pour ce qui concerne chacun leur champ de compétences. Alors, soit je développe quelques éléments concernant la Digital Platform for Attorney, le DPA, soit je le réserve pour le temps de discussion et de réplique, je pense. Non, sinon j'en termine là. C'est... Alors, j'aurais évidemment préféré développer ça en réplique par rapport à la présentation qui va nous être faite par M. Goffin, mais le système est incroyable et relève quasiment du surréalisme à la belge. En fait, il y a une opacité, et je parle sous le contrôle d'un administrateur de l'OBFG, il y a, et je ne dis pas qu'elle est volontaire, mais il y a une très très grande opacité par rapport à ces questions où les avocats manquent totalement d'informations. Donc, petit message, monsieur l'administrateur, améliorez votre communication. J'ai reçu une carte d'identité d'avocat qui me permettra, ou qui me permet déjà maintenant, de me connecter sur un site, le DPA, qui constitue en réalité une façade, je vous expliquerai pourquoi, et qui va me permettre de gagner un temps considérable. Je ne devrais plus me déplacer pour déposer mes conclusions aux greffes des différents tribunaux. Je pourrais les déposer dans un dossier informatique